Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 12 janvier 2008 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
Ça vide dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
maintenant,
le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, artbook.
Et suivi de...
Eh ben, pas de... Ça c'est du sport aujourd'hui, il n'est pas là, il fait sa petite pause. Mais à 15h, ce sera du reggae avec Zarma Farah. 17h, un peu n'importe quoi avec Ça c'est de la bonne viande. 18h, Big Bang. 19h, Les Olives avec Happy Hero. 20h, de l'électro avec la Cetero Experience. 21h30, 9 Lobs et YouTube Step. Et à 23h, du live avec Le Potager. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Bonjour Sabrina.
Bonjour Xavier.
Et bonjour Nico. Nils, pardon.
Bonjour.
Ça faisait longtemps.
Ouais.
C'est vrai, mais c'est quand même un habitué. Aujourd'hui donc pas de Ça c'est du sport, à notre plus grand regret, mais tous nos voeux l'accompagnent de joyeux dépannage. Il a encore les mains dans le cambouis. Et...
Il travaille plus pour gagner plus.
Oui, c'est bien ça. C'est un garçon qui comprend la nouvelle orientation de la radio. C'est bien. Un petit peu donc de supplément week-end qui va parler de hardbook et de plein d'autres choses. Et à l'approche d'Angoulême, donc on se met un petit peu la pédale douce sur les nouveautés bande dessinée, que voulez-vous. Mais premier jour de la semaine prochaine, il y aura un invité plutôt intéressant. Mais en attendant, le morceau que j'ai mal lancé la semaine dernière.
Ah oui, et tu vas nous le resservir aujourd'hui ?
Ouais, Denial This Thing. Sauf que le lecteur cédait un problème. C'est pas la peine. D'accord, c'est maudit aujourd'hui.
I keep on. Wondering.
On va essayer de rattraper ça, c'est pas gagné. Enfin, que voulez-vous, vous êtes sur la poubelle des radios, c'est Radio FMR 89.1 MHz. J'espère que vous allez bien. La semaine prochaine, donc, nous recevrons Ferry, l'auteur de De Gaulle à la plage, donc qui sera en dédicace chez Gilbert, à la librairie Gilbert, donc à partir de 15h. Ça, c'est samedi prochain et c'est une bande dessinée assez étonnante sur l'humour politique qui est loin d'être iconoclaste. Enfin, tout ça, on vous le réexpliquera, ou sinon vous allez sur le site internet de l'émission et là-dessus, ben, vous tapez supplémentweekend.tk dans votre navigateur, sans accent sans tirer, supplémentweekend.tk, et c'est dans l'une des dernières chroniques qui ont été publiées. C'est un bouquin qui est assez surprenant, qui est vraiment à découvrir et qui fait dans l'humour old school, mais qui marche plutôt bien.
De l'humour fin, intelligent et tendre. Donc c'est assez, assez frais, c'est une bonne surprise.
En tout cas, ça fait vraiment plaisir en ces temps d'un président omniprésent qu'on recommence à parler des grands hommes, ceux d'au moins 1m90. Je viens de me faire avoir par le siège, donc voilà, il est trop bas. Opa, c'est vengeance, hein. La vengeance est mesquine vis-à-vis de mes mauvaises blagues. On va entamer les sorties bande dessinée avec Yumi Hari, Le Vaisseau Rugissant. C'est une nouvelle série de manga donc, qui est sortie dans la collection Big Kana, chez Kana. Donc une série dans une collection supposée s'adresser à des adultes. Là-dessus, je suis pas exactement d'accord, je m'attends plutôt à un truc adolescent. En tout cas, elle n'a pas encore démarré précisément. C'est l'auteur s'appelle Hitoshi Tomizawa, donc c'est une série japonaise évidemment plutôt mainstream et cela se sent au niveau de la production. Quand les armées des différentes époques se rencontrent, on se dit que les plus récentes vont forcément gagner. Mais que s'est-il passé sur Terre ? Depuis une dizaine d'années, toutes les époques se sont retrouvées confondues et les habitants errent entre différentes îles sur des bateaux, entre les îles du Japon qui semblent à moitié submergées par donc l'élévation du niveau de la mer. Et donc ils sont sur différents bateaux, des bateaux de fortune, des bateaux cargo, des bateaux de guerre ou des trains qui ont été transformés en bateaux. En fait, il semblerait qu'une guerre du temps ait lieu et que des individus des époques passées en subissent ces dégâts collatéraux en ayant été téléportés dans cette époque brumeuse et étrange. C'est surtout le prétexte pour l'auteur de s'éclater à faire prendre d'assaut un sous-marin par des samouraïs et autres incongruités comme d'étranges cosmonautes à pic. Enfin bon, c'est un peu étonnant. L'idée du script en soi n'est pas inintéressante, voire même, il réserve sûrement de très très bonnes surprises, et le domaine aquatique est plutôt propice à distiller une angoisse latente, vous savez, ces moments où, même si on est précipité direct dans l'action d'entrée dans l'album, en fait on se dit, oula, ça va être assez long en fait, ça va vraiment prendre son temps à s'installer, on découvre vraiment au fur et à mesure l'univers, ça met peu de temps à démarrer, et encore, j'essaie de ne pas spoiler toutes ces surprises, honnêtement, c'est quand même pas évident. Mais on sent qu'on va être dans la même attente de réponse que les protagonistes. Je regrette juste un graphisme très jeté, ça sent vraiment beaucoup la précipitation, c'est-à-dire on sent vraiment le rythme publication derrière, le chef de studio qui dit « Allez, plus vite, les planches doivent partir à l'imprimeur » et tout ça. Ça aurait peut-être gagné à être un peu plus travaillé. Enfin bon, ça on attend de voir. Hitoshi Tomizawa, Yumi Hari, Le Vaisseau Rugissant. Le premier tome donc est sorti dans la collection Big Kana chez Kana. Choucaud, c'est un jeune dessinateur français. Grail Choucaud, déjà son pseudonyme est un hommage à la fois aux comics et aux mangas. Et moi, c'est ce qui a marqué sur le dossier de presse de Winter Freaks, qui est un one-shot, donc une histoire complète, qui vient de sortir dans la collection Escape, je ne sais pas. C'est donc chez l'éditeur 7ème Choc, qui est l'éditeur de Nils, tu peux le dire. Allez.
C'est qui le patron de 7ème Choc d'après toi? Dans le micro s'il te plaît.
Intervista.
Non, il y a un patron assez célèbre derrière 7ème Choc qui a fait du cinéma avant.
Ah bon, du cinéma?
Oui.
Ah d'accord.
Lucasson.
Oui.
Oui, il gagnait.
Donc c'est qu'il possède la plupart des grosses boîtes.
Mais la grosse question en fait que je me pose, c'est est-ce que c'est un bon éditeur de BD? En fait, c'est assez inégal. Il y a la semaine dernière, j'avais parlé d'une bande dessinée qui avait vraiment plu. Celle-ci, moyen. La semaine prochaine, vous allez voir qu'il y en a une. Elle, c'est... Enfin, c'est Tom qui s'y colle, puisqu'elle est chez toi.
Il y en a une, il faut que je la lise.
Donc, Grail Choucaud, Winter Freaks, c'est dans la collection Escape chez 7ème Choc, et tout aurait pu commencer plus brutalement. Ça se passe dans un petit hameau de montagne, de haute montagne plus exactement. 8 chalets, dont 3 sont toujours inoccupés, et dans les autres, on a une mère célibataire et ses 2 enfants. On a un retraité tout à fait amical, on devine qu'il est là pour chercher un petit peu la paix. Et un grand gaillard taciturne qui se prend pour un grand chasseur et qui profite de la montagne pour aller vider son fusil. Une petite communauté isolée quoi, en fait. Un matin, un des chalets a disparu, comme ça, un gros trou dans la neige, sans un bruit, durant la nuit et sans trace autour. Sinon c'est le de petites bêtes. Serait-ce la seule piste pour expliquer ce mystère? Comme ça, un chalet qui disparaît, qui se volatilise. Le reste ne se raconte pas, car ce one-shot peut se dévoiler assez vite. En fait, ça embraye très vite. Entre angoisse et loufoquerie, on est embarqué dans une étrange aventure. Graphiquement, on sent que Grail Choucaud sait mettre en valeur un paysage, donner une texture, quoiqu'en utilisant Painter, c'est quand même pas le plus dur. Et que son trait va forcément gagner en assurance. Hein. Après tout, c'est un premier tome. Et ce qui est assez étonnant, c'est que en fait, les planches ont été agrandies. C'est-à-dire qu'il dessine sur feuille A4.
Ah.
Et en fait, on est surpris. Oui, il n'est pas mauvais quand même, hein, l'animal, hein, là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a un pitch intéressant. Et on sent que quand même, le script développé par Grail Choucaud, il l'exploite de manière vraiment sommaire. C'est pas franchement sa partie quand même d'écrire les scénarios. C'est quand même un petit peu dommage de ce côté-là. Grail Choucaud, donc Winter Freaks, c'est dans la collection Escape, je vais y arriver, chez 7ème Choc. Ça part toujours pas. C'est en train de discuter là derrière.
On parle de la BD que tu vas chroniquer.
Oui. On parle de Ujishima, c'est ça?
C'est ça.
Ujishima de Shohei Manabe. Donc le 3ème tome de l'histoire de l'usurier de l'ombre vient de sortir dans la collection Big Kana. C'est donc chez Kana, évidemment, l'éditeur manga de Dargo. Ujishima, c'est un Yaminkin, c'est-à-dire que c'est un usurier qui prête à des taux absolument exorbitants à des individus qui ont été littéralement grillés auprès des organismes bancaires, qui sont allés trop loin dans le crédit revolving et qui sont littéralement criblés de dettes pratiquement à la faillite personnelle. Le problème, c'est que son activité est illégale mais parfaitement tolérée. On a déjà parlé, c'est-à-dire qu'en fait, ils font partie de cette criminalité institutionnalisée comme les Yakuza et tout ça, c'est-à-dire les rues au Japon sont extrêmement sûres Par contre, il y a une criminalité organisée qui existe, qui est dans l'ombre, qui est derrière, qui s'est fondue dans la société et qui est assez étonnamment brutale, quand même, mine de rien. Il est donc prêt à toutes les méthodes possibles pour retrouver l'argent qu'on lui doit. Et quand les menaces et tabassages ne suffisent plus, qui est lassé avec les escroqueries, en utilisant ses clients comme prête-nom, c'est-à-dire, vas-y que je te mets une assurance vie et que je signe à ta place et qu'ensuite je te balance en haut d'une falaise, des trucs comme ça. Il y a toujours moyen de récupérer de l'argent sur le dos de quelqu'un. Il y a toujours moyen. Et cela peut aller à beaucoup plus effrayant. Il se trouve que Ujishima est attaqué par un autre Yamakin, par quelqu'un qui veut l'escroquer, par des Yakuza largement plus influents que le gang à qui il rendait compte. Et ben là, la seule solution qu'il a, c'est la violence. Ben oui, il va quand même pas aller voir la police ou la justice. Ce serait quand même idiot, hein. Je rappelle que son activité est censée être illégale. Et quand on s'attaque à ses hommes de main pour lui soutirer du fric, on se dit, est-ce qu'il va laisser ses hommes de main se faire trucider à sa place ou est-ce qu'il va répondre avec la pire des violences ? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que rien ne l'arrêtera. On avait un peu de sympathie, finalement, pour son cynisme. On disait, c'est un salaud. Oui, mais il était cynique, mais en même temps, il était absolument lucide vis-à-vis des gens qui l'escroquent. S'ils viennent se faire escroquer chez lui, c'est que tout simplement... c'est pas uniquement leur dessein. C'est parce que vraiment, ils l'ont voulu. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent largement au-dessus de leurs moyens ou qui n'ont pour seul loisir que de jouer aux machines à sous quelque part du côté du Rami, pardon. Bref, de ce côté-là, on se disait oui, c'est un salaud, mais c'est un salaud finalement qu'on aime bien de ce côté-là parce que il est juste dans la manière, dans ce qu'il dit et tout ça. Maintenant, on sait que lui et ses pairs, ils sont capables d'aller jusqu'au meurtre pour préserver leurs intérêts. Toujours à 50% d'intérêt d'ailleurs, les 10 jours comptant. Eh ben, il serait bon de le rappeler, surtout en période de solde. Ushijima, c'est dans la collection Bikana Shikana. C'est vraiment une bande dessinée adulte de ce côté-là. On en apprend beaucoup plus que... les gens qui ne sont pas avertis en apprennent beaucoup plus sur ce qu'est réellement la société japonaise. C'est assez brutal, c'est assez violent sur la faillite humaine sur laquelle la civilisation du paraître peut aller. Et là-dessus, c'est quand même assez grinçant. Shoei Manabe, je le conseille, c'est dans la collection Big Kana, chez Kana. Le premier tome, vraiment, on entrait vraiment comme ça. Là, on rentre littéralement dans un polar manière Hong Kong. Ça y va, ça flingue à tout va, et c'est brutal, quoi. En tout cas, c'est vraiment une très très bonne série.
Et depuis tout à l'heure, Anis a l'air hypnotisé par cette manga. Qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, j'avais justement lu un truc dessus il y a relativement peu de temps et je m'étais
sur un blog
intéressé. Donc dans un magazine, je pense, un truc, tu vois, genre Fnac et compagnie, quoi.
Ouais. Et ils en disaient quoi ?
Autant de bien que toi, tu vois. Donc effectivement, ça a l'air de se tenir pas mal graphiquement déjà. C'est sympa et ça a l'air super super adulte comme tu dis.
Donc je suis curieux. Ça fait vraiment partie des bouquins de société, des bouquins qui n'hésitent pas à montrer les bas-fonds tels qu'ils sont réellement. C'est-à-dire que c'est pas des gens, des mafieux et tout ça, costard cravate et tout ça. Non, pas du tout. En fait, ils se baladent la plupart. Oui, ils ont des trucs un peu fashion, un peu tendance et tout ça. Mais d'un autre côté, ils se la jouent pas manière rappeur. C'est-à-dire qu'ils ne font pas rire du tout ces gens-là. Les rappeurs, c'est pour rigoler, quoi. Vraiment, on se dit, ils font partie de la société. La société ne les pourchasse pas, sauf s'ils font un pas de travers. Donc, ils se permettent, en fait, d'y aller violemment et brutalement, mais uniquement dans certaines conditions. Là, on se dit, ouh, ça fait mal. Et la scène où il explique combien rapporte chaque personne, il traite ses clients, il dit, c'est des esclaves. Il le dit texto, c'est des esclaves sur lesquels je prends du fric. On se dit, ouf. Ça y va sec, et pourtant, il a plus ou moins raison.
Ouais, c'est pas un gentil le héros, on sent, hein, ça c'est clair.
Ça y va sec, donc je le recommande franchement. Thomas, lui, il a littéralement autre chose.
Ah oui, non, c'est pas la même chose, non. Ah, tu veux mettre cette musique ?
Ah oui, non, il faut une musique qui fasse peur.
D'accord.
C'est du grand, c'est une partie de roleplay là.
Ouais.
Médiéval fantastique. Donjons et Dragons, règle numéro 4.
C'est une œuvre de paste anticipation, comme il est stipulé dans l'album. Donc il s'agit de Chaosland ou Chaosland, comme vous le préférez. C'est le tome 1 qui s'appelle Svogshorn. Et c'est dessiné par Ancestral Z et Mojo Jojo chez les éditions Ankama. Alors, Ancestral Z, il est présenté comme un frappadingue qui a un univers assez foisonnant, fan de kitsch, de série Z, etc. Et c'est lui qui s'occupe des personnages et de l'histoire d'origine, et alors que Mojo Jojo s'occupe plutôt des dessins de décor et canaliser l'énergie de son compère. Alors, dans un hiver donc moyenâgeux, une troupe de tarés, d'aventuriers se lance dans une quête visant à neutraliser Jean-Luc, un mec qui mettra forcément le pays à feu et à sang plus tard. Mais pour l'heure, il se repose à la station balnéaire d'Honolulu. Alors pourquoi Jean-Luc ? C'est parce que la personne qui a inspiré le méchant en fait souhaite garder l'anonymat. Alors il s'agit d'une BD qui laisse circonspect en fait, puisque on hésite entre cryogénie et jeter cette BD aux ordures. Parce qu'en fait ça semble être la BD quand même la plus naze jamais faite, mais en même temps la plus géniale. Alors c'est tellement un ovni ce truc, est tellement jusqu'au boutiste qu'on sait pas si on doit adorer ou si on doit détester, si on sait pas si on doit dire que c'est une des BD les plus innovantes qui nous était donnée de lire, ou alors un truc
si pomper un ancien président est innovant ou non, hein. Parce que franchement ça ressemble beaucoup à Donjon dans l'idée.
Ça
ressemble beaucoup au premier Donjon.
Ça se situe pour l'humour entre Donjon, les Charlots, les Nuls, du Nailbug sous acide. C'est à tout qui passe. Mais l'humour est vraiment. En fait, ça fait penser à des espèces de petits BD qu'on s'offre entre amis, mais vraiment pour rigoler, avec des blagues qui ne font rire que certains. Et là, c'est pareil. C'est tellement. C'est tellement un ovni, si tu l'as dans ta BD Detect, tu sais pas si tu dois le cacher ou si tu dois être fier et le présenter devant les autres.
En disant ouais, ce truc ça tue, c'est trop génial, c'est le nouvel RG.
On peut pas dire ça, non.
D'accord.
D'ailleurs, de façon parce qu'il y a beaucoup de pages bonus.
Non, parce qu'RG ça pue.
Aïe!
C'est vrai qu'à la fin, il y a des tonnes de pages de bonus, mais tous l'esprit.
C'est peu la caractéristique aussi des bouquins chez Ankama.
Pas tous. Justement, on avait pu reprocher à l'album de Maliki d'en être un peu dépourvu, mais c'est vrai que si tu te bases sur les Mutafukaz, c'est un peu le même esprit. Alors, il y a plein de fausses coupures de journaux à un moment donné. Cuisiner dans son propre salon, une BD nominée à l'Emile Wallon Art. Il y a des articles qui sont à l'envers aussi. Kidnapper. Enfin, c'est les auteurs qui ont été kidnappés, pris en otage. C'est des faux articles de partout, soulignés au stabilo. Il y a même un texte du patron d'Ankama qui hésite lui aussi, c'est pas si c'est complètement naze ou si c'est génial. Il y a un florilège des armes de la BD, évidemment, avec des descriptifs complètement barjots. Alors pour vous donner un ordre d'idée des blagues qu'il y a, parce qu'en fait, il suffit pas de feuilleter la BD pendant 4 ou 5 pages, une seule page, déjà vous lisez les bulles et vous savez si vous devez l'acheter ou non. Alors, on a des trucs genre le lecteur doit en avoir pour son argent, oui, surtout que nous ne rendons pas la monnaie. Ou aubergiste, je voudrais une eau pétillante servie avec des effets de vitesse parce que je suis pressé. Voilà,
Ok.
C'est nul.
Effectivement, c'est proche du bide là.
C'est ce que je disais, c'est assez déconcertant. Il y a des personnages qui se tournent, il y a le texte des bulles qui se tournent avec eux, donc il faut les lire devant un miroir. C'est proche des gags qu'on met sur les tables d'école au CP. C'est un humour nonsensique.
N'insiste pas, redonne les références du bouquin.
C'est assez commun dans les trucs qui sortent de chez Ankama. T'as l'impression quand même qu'ils cultivent vachement ça, quoi, l'humour un peu. Borderline quoi.
Oui, mais encore Mutafukaz, si c'est à ça que tu penses.
Mutafukaz, je suis désolé, non. C'est super référencé, riche quoi.
Non, Mutafukaz c'est différent, ça existe depuis avant Ankama quoi, ils l'ont édité, mais.
De ce que j'ai vu chez Ankama, c'est vrai que des fois les éditeurs ils sortent des trucs uniquement pour être présents
dans le manga d'Ofu, c'est tout, c'est quand même délire quoi.
Honnêtement, il y a des bandes dessinées qui sont sorties par les éditeurs uniquement pour être présents au moins une fois par semaine dans les linéaires. Et des fois, c'est quand même un petit peu flag. Hein.
Enfin, en tout cas, l'intérêt de cette BD, c'est vraiment d'avoir un univers qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le dessin peut faire penser à du dessin naïf, complètement fait par un mec qui ne sait pas dessiner. Mais ne vous y fiez pas, parce que si vous y prêtez attention, les perspectives sont justes. On voit qu'il y a un bon caractère design derrière qui est quand même assez carré. Donc, le dessin semble naïf, mais c'est quand même ça tient la route. Donc, c'est une BD vraiment. Vous pouvez le feuilleter, mais là, déjà, enfin, vous verrez si vous détestez, vous adorez. Donc ça s'appelle Kaoland d'Ancestral Z et Mojo Jojo, édité chez les éditions Ankama. Et le tome 1 s'appelle le Svolgshorn.
Radio éphémère, midi 29 minutes et 49 secondes sur l'horloge atomique de la radio. C'est le supplément week-end et la régie finale nous a intimé l'ordre de passer les...
Ça c'est un bon chien, ouf. Ça c'est un bon chien, chien, ouf, ouf. Et ça mange quoi les chiens, chiens? Ouf, 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 ouf. La croquette en forme de boulon préférée des chiens. 2,75€. Oui, ouf.
Tu m'attendais. Les salauds, ils nous ont coupé par la pub.
C'est requin marteau.
Ouais, ouais, ouais. Ah bah heureusement que France Télévisions, ils vont supprimer la pub. Ils ont 2h15 de programme à trouver par jour, ça va être rigolo, tiens. Allez, coupure musicale, aujourd'hui pas du sport, donc on se permet. Allez, hop, zoom. Ministry. Dans leur reprise cultissime de So What, dans l'album The Mind is Terrible a Thing to Taste. Non, c'est pas la reprise de Miles Davis. We'll be right back. Ministry, So What. Ça remonte, hein, ça remonte à 91. Ah, ces années, hein.
T'es vieux.
Oh mince, merci, rappelle-le-moi, tontillé. Et Thomas donc m'a surpris en train de lire Libération, ah bah, sauvagement abandonné par Rascal.
C'est toi qui lis.
Et donc, oui, non mais je dis, tu m'as surpris en train de lire Libération, et que donc en kiosque aujourd'hui, ils offrent, ils offrent à 6,40€, ils offrent Duel, hein, si vous voulez savoir. Le film des Monty Python, pardon. Donc Thomas, chronique livre, beau
oui,
livre.
Oui, nous avons un beau livre aujourd'hui. Alors les enfants, c'est à votre tour là.
Wouhou. Oh, salut.
Alors, on remet les casques, on se met devant le micro.
Ils sont dissipés, je sais pas ce qu'ils ont fait hier soir, ils ont dû manger dans un resto un peu lourd quoi.
Bon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas reçu Nils et Sab, alors c'est quand même utile de repréciser qui c'est. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de re-recevoir un gars super énervant. Il a la particularité d'être un très bon ami, mais nous avons quand même envie de lui arracher les bras. En effet, ce type est capable de vous dessiner la chapelle Sixtine pendant que vous allez boire un café, de vous pondre n'importe quelle illustration en un claquement de doigts, par exemple un logo d'un religionniste pratiquant le kitesurf en vue d'en dessous, en rendu crayon de couleur sur un nappe de grand-mère, tout en réfléchissant au lieu de sa prochaine sortie au resto. Illustrateur, graphiste, character designer, animateur 3D, Nils sait tout faire. Bon, les mauvaises langues diront qu'il a une incapacité chronique à dépasser le stade du gribouillis sur un coin de nappe sur les projets d'envergure, et c'est pour cela que nous ne sommes pas prêts de le croiser au festival d'Angoulême.
Oui, d'ailleurs, à ce propos, t'as un scénario de 800 pages qui t'attend.
Ce coquinou a notamment créé les Camafun, ces petits diablotins adorables qui ornent désormais les cartables, trousses et agendas des écoliers.
Ils sont au courant de ce que ça fait.
Il est énervant, on vous dit. Grand fan des films d'animation Disney et Pixar, de Skydoll et Humberto Ramos, son seul défaut, bizarrement, c'est de ne pas être fan de Miyazaki. Mais heureusement, nous recevons notre fan attitré de Totoro, Kiki, des Tanuki et des Noirod, Sabrina. On ne la présente plus, elle fait désormais partie de l'équipe du supplément week-end. Illustratrice elle aussi, pour ceux qui l'ignoreraient encore, elle dessine plutôt des chats, des nounours, des femmes mystérieuses peuplant des mondes féeriques. Aquarelliste de talent, elle peint des paysages d'inspiration asiatique. Rassurez-vous, elle a aussi un mal fou à concrétiser des projets d'envergure. Vous ne pouvez pas savoir la somme de projets de croquis qui dorment dans la tour de Pise qu'elle nomme bizarrement ses étagères. Bref, pendant que nous avons un auditeur en ligne...
Bonjour monsieur l'auditeur.
Comme tout bon illustrateur, vous aviez besoin chacun d'un bon gros coup de boost pour doper votre production. Et le booster s'appelle Dromadaire. Alors, parlez-nous déjà de ce machin. Qu'est-ce que Dromadaire ?
Alors, le Dromadaire qui s'écrit pas comme ça se prononce, eh bien c'est un petit blog que nous avons monté en commun, auquel Thomas participe aussi d'ailleurs. Ainsi que quelques autres amis et ex-collègues, et dans lequel nous choisissons chaque semaine, en théorie, un sujet auquel nous répondons tous par une illustration particulière.
D'accord. On peut dire que ce blog, donc on mettra le lien sur le site de l'émission, donc il s'est tout frais encore. Peut-être qu'on vous invitera tous pour en parler prochainement quand il y aura un peu plus de contenu.
Pour l'instant, ça frise imagination, j'ai vu dans les thèmes le nouvel an, bonne année, un dromadaire, super.
Un dromadaire, ah, c'est le tout premier. Hein.
Oui.
C'est encore tout récent, le blog, il a quoi, les 2-3 semaines.
Voilà.
Donc c'est un début, mais finalement ça part pas mal quand même. T'as regardé un petit peu ?
Oui, bien sûr.
Allez,
bien
ça,
sûr.
Ça motive,
j'ai fait semblant.
Ça
oui.
Nous motive, c'est bien. C'est... voilà.
Donc voilà.
Pour les auditeurs, on peut rappeler l'adresse de Dromadaire ?
Oui, donc ça s'appelle, ça s'écrit Draw comme tout Draw en anglais dessiné.
Donc http://dromadaire.com
blogspot.com.
Voilà, et si vous êtes un vil cyber squatter, vous réservez de suite le nom de domaine parce que sinon jamais personne va le retenir. Voilà.
Et j'ai corrigé, même les inconnus anonymes peuvent poster des commentaires.
Il faudra aussi penser à re-régler l'horloge. Parce qu'elle est pas à jour. Non,
ça, on va éviter les problèmes techniques.
Non, ça c'est Blogspot. Tu peux pas faire autrement.
On lâche ça à l'intérieur.
Ça, tu peux pas faire autrement. Hein. C'est Blogspot.
En tout cas, Nils, tu es là pour nous parler d'un artbook toujours édité chez les éditions Ankama qui s'appelle Café Salé.
Qui s'appelle l'artbook Café Salé.
Café Salé.
Non, parce qu'il y en aura sûrement d'autres derrière, n'est-ce pas? Il est intitulé Artbook 01. Donc, on peut supposer qu'on aura de quoi se régaler des prochaines fois.
Dans le micro, je te prie. Et Café Salé, c'est pas un site web hein?
Alors voilà, Café Salé, en fait, pour parler de l'artbook, on va commencer par le forum. Puisque le forum Café Salé, existe depuis 2002 déjà, qui compte aujourd'hui à peu près 14 000 membres. C'est une énorme communauté d'illustrateurs, photographes, infographistes, sculpteurs, peintres, tout ce qu'on veut. Qui a une vie hyper importante. Ils organisent au moins une expo annuelle dans un bar apparemment qui le reçoit couramment, les Furieux à Bastille pour les Parisiens. Et oui, nous on n'a pas de bol, hein. Et voilà, c'est comme ça.
S'en fout, non, on a du bol. Alors à Toulouse, on a une équipe de rugby.
Ouais, aussi. Il paraît, ouais. Mais c'est-à-dire, ça m'intéresse, moi. Donc, ce forum a été créé en 2002, comme j'expliquais, par Kness et Bengal, qui sont deux illustrateurs aussi.
Mm-hmm. Qui sont énervants aussi, je pense.
Ouais, exactement, ouais, voilà. Tu parlais de couper des bras tout à l'heure. Ça me flatte hein, que tu m'attribues cette envie. Mais là, vraiment, dans ce bouquin, il y a que ça, quoi. Il y a que des mecs à qui on a envie de couper les bras. Mais voilà, mais c'est beau. Ça donne beaucoup de bonheur aussi. C'est rempli
ta crise de jalousie, on s'en fout. Les techniques utilisées à l'intérieur,
allez, vas-y,
c'est quoi?
Vas-y.
C'est quoi?
Bah alors, il y a eu tout, c'est ce que je dis. Là, c'est vraiment concentré. Il n'y a pas vraiment de photographie ou quoi. Mais c'est vachement orienté art numérique et peinture, quoi. Donc il y a beaucoup de choses, plus ou moins graphiques, illustrations, c'est très varié. Il y a 700 illustrations là-dedans, de 156 artistes différents. Donc il y a de quoi faire.
Donc il y a du vectoriel, mais il y a aussi des peintres qui font des reproductions là-dedans, mais qui peignent en physique.
Ouais, voilà, exactement. Ouais. Donc il y a énormément d'artistes. Si vous fréquentez un peu d'autres forums ou celui-ci justement sur le net, vous retrouverez certains noms qui vous parleront peut-être, comme Entamac, donc lui sort.
Ah donc
on
reste dans le rugby donc.
Et non, à lui. Qui sort dans Kama également ou qui y est en ce moment. Annie, qui est un illustrateur que j'adore depuis un moment. Il y a Chia, qui est une illustratrice. Qui bosse, si je me rappelle bien, à Paris, dans une boîte de... Ceux qui éditent des jeux, tu sais, sur téléphone mobile, là, je sais plus comment ils s'appellent.
Ah, il y en a plein, hein, des petites boîtes comme ça.
Non, ça c'est quelque chose de gros, attends. Alexis Briclot, Macbeth, Jocelyn, Jean-Sébastien Rosbach, Grelin, Arthur Despins, hein, n'est-ce pas?
Ah merde, oui, c'est vrai.
Mathias Ferrassel, Hubert Delartigue, qui est très connu aussi en
Hubert
illustration
Delartigue,
pin-up.
Oui, ça fait c'est pas un inconnu, ça fait 25 ans, 30 ans qu'il
lui,
tourne.
Lui, il est pas du tout inconnu.
Ouais, ça fait 25 ans, 30 ans qu'il fait les couvertures de J'ai lu SF. Hein.
Ah ouais, également?
Oui.
Ouais, je sais, enfin moi je connais plein de ses illustrations pin-up, mais c'est tout quoi.
Oui, c'est vrai qu'il fait beaucoup.
Et puis bon, voilà. Donc,
gros bâtard celui-là.
Et c'est super varié, il y a vraiment des illustrations qui sont très BD, d'autres super graphiques, vectorielles, comme disait Thomas, et des choses hyper écœurantes, dignes de matte painting de cinéma, tu vois. Genre Mathieu Verhasselt, lui, c'est un malade.
Alors, une question, je vais dire un petit peu vénale, mais les artbooks en général, c'est quand même plutôt cher comme ouvrage. Hein. Ça peut aller pratiquement à la centaine d'euros.
Justement, sur celui-là, on le trouve à 30 euros, voire un peu moins sur. Je fais un peu de pub sur Amazon.
Non, mais ils n'ont pas le droit de le vendre à moins, en dessous du prix libraire. Donc,
non, exactement, mais tu sais, c'est les 5% de réduc classique.
Non, ils se font flinguer là-dessus, ça va disparaître.
C'est vrai?
Ouais. Parce que comme ils offrent
c'est
le
frais. C'est pas les seuls à faire ça. Hein.
Oui, mais comme ils offrent le frais de port, ils n'auront plus le droit.
Ah, ok. Donc, bon, voilà. Bah voilà, une info supplémentaire par Xav, merci. Mmh. Donc profitez-en, vous pouvez encore l'avoir à 28,50€. Voilà, et c'est édité par Ankama Édition.
Tu vas dans une librairie, hein, ils te les font aussi, les 5%.
Oui, je sais.
Oui, allez, allez, on fait la pub pour la librairie locale. Allez, Xav, vas-y.
Non. Et on revient au sujet, peut-être.
Et est-ce que on trouve, comme c'est édité par Ankama Edition, donc ils sont arrivés un peu tard sur le projet, puisque ça regroupe surtout des illustrations du forum, donc on trouve pas tant que ça d'illustrateurs d'Ankama pour l'instant.
Non, quelques-uns. Il y a quelques ajouts à la fin, effectivement. On sent que c'est une volonté de l'éditeur, mais d'ailleurs qui dépareille pas du reste, parce que
ah oui, mais les illustrations aussi, de Wakfu, je sais qu'ils ornent certains fonds d'écran, certaines personnes.
Alors juste une question, parce que quand même c'est peut-être l'intérêt de ce genre de bouquin, est-ce qu'il y a des détails techniques, est-ce qu'il y a des explications sur la manière dont on arrive à certains modeler, certains rendus et tout ça?
Ouh, alors là,
ouh,
non,
ça fait mal aux yeux quand tu tournes les pages.
Là c'est pas du tout ce qui est, ouais, ça... Vas-y, regarde, tiens, prends ça dans tes yeux. Allez, celui-là.
Oh punaise.
Non, alors là-dessus, c'est vraiment de la contemplation pure, quoi. Il n'y a pas de step by step ou ce qu'on pourrait aimer retrouver. Mais bon, par contre, il faut savoir que Café Salé, comme je disais, c'est un forum qui est super vivant, où il y a énormément d'échanges. Donc là-dessus, vous pouvez trouver énormément de commentaires sur les illustrations. Certaines personnes qui vont au moins être liées de par le forum à leur site, où vous trouverez là, pour beaucoup, des step by step ou des choses comme ça. Donc de toute façon, ça vaut le coup si vous êtes intéressé par les illustrations et que, je sais pas, vous bavez en achetant ce bouquin, de faire un tour sur le forum et de découvrir un peu tous les autres qui y fréquentent. Voilà.
Bah, en tout cas, moi j'ai quand même une remarque concernant les step by step par des artistes renommés. Dans les quelques artbooks que j'ai chez moi, donc à chaque fois qu'il y a des step by step, ça passe de au moins 5 ou 6 images pour la préparation du support, et hop là, ellipse, ça passe à la finition du dessin.
Faut pas donner tous les secrets.
Et voilà, donc le step by step, c'est sympa, mais faut connaître les limites.
Ouais,
les
limites. Les pistos,
oui, ils t'apprennent à mettre la petite feuille verte sur l'assiette blanche à la fin.
Oui, c'est pareil.
Voilà.
Donc, je redis, l'artbook Café Salé, vous pouvez le trouver un petit peu partout dans les bonnes librairies pour la modique somme de 30€, et c'est édité par Ankama Édition. À savoir aussi l'adresse du forum Café Salé sur le net. Allez-y, c'est cfsl.net pour Café Salé. Voilà,
il fallait trouver plus simple peut-être encore à donner comme adresse. Merci Nils, merci Sabrina. Et je vous rassure, c'est pas fini. Maintenant, il y a la partie cinéma. Donc voilà.
Cinéma pour.
La rubrique DVD vous est présentée en Dolby Mono Surround par Thomas.
Et oui, aujourd'hui nous attaquons un dessin animé Disney qui est sorti un peu avant les fêtes et qui est sorti en double DVD collector, qui s'appelle Le Livre de la Jungle. Et c'est un film de Wolfgang Reitherman qui a été produit au sein du studio Disney, qui est d'ailleurs le dernier dessin animé supervisé par Walt Disney, puisqu'il est mort
juste
avant la sortie salle, qui est donc sorti en 1967. Alors, pour ceux qui connaissent pas, dans la jungle indienne, le bébé Mowgli est recueilli par la panthère Bagheera, qui entreprend de l'emmener jusqu'au village des hommes pour le protéger du terrible tigre Shere Khan.
Tu m'excuses, mais là, tu viens de faire le résumé d'un bouquin de Rudyard Kipling ?
Non, je viens de faire le résumé d'un dessin animé Disney qui n'a rien à voir. Car, justement, j'y reviendrai tout à l'heure, dans le DVD, les bonus, assez intéressants dans l'ensemble, tu apprends les différentes phases qu'a connu l'adaptation, en passant par un rapide résumé du bouquin de Kipling, un premier traitement storyboard par un des scénaristes attitrés du studio qui a été viré par Walt Disney pour divergence artistique, et le comparatif finalement avec le film à l'état final. Alors moi, si je vous dis Le Livre de la Jungle, c'est quand même un film qui est resté dans la postérité pour ses musiques, pour ses chansons. Alors si je fais 3-4, attention, tout le monde chante la chanson emblématique du film. 3-4.
I wanna be like you,
don't fuck pour être heureux.
Vraiment très peu pour être heureux.
Faut se satisfaire du nécessaire.
Ou alors, comme tu dis, I'll be like you, I wanna be like you, I wanna talk like you. Ouais.
Bon voilà, on est tous retombés en enfance. Donc ce film, bah, c'est la perfection absolue, c'est un film indépassable, c'est le film préféré de beaucoup de gens que je connais, c'est un de mes films préférés personnellement. S'il n'y avait pas les Miyazaki, je suis sûr que Sabrina serait son film préféré aussi.
Ah, oh, mais j'aime bien les Walt Disney, moi. Donc.
Ah oui. Et donc dans les, parmi les Walt Disney, donc nous avons affaire à quelques amateurs ici. Est-ce que vous le placeriez dans les vos Disney préférés?
Oh oui.
Merci.
moi je réponds pas. Je vais attendre que tu me passes le DVD parce que quand je l'ai vu, j'étais un poil petit et je l'ai pas revu depuis. Donc
ah d'accord.
Mais c'est vrai que moi j'ai. Enfin je sais pas. Mais bon, Cendrillon, c'est un peu space. Il y a La Belle et le Clochard, oui, qui est très beau. Les 101 Dalmatiens, qui m'a beaucoup fait rire. Mais c'est vrai que Le Livre de la Jungle, c'est peut-être le plus étrange, car il est vraiment en dehors de l'esprit Disney, j'ai l'impression, par moment. C'est peut-être ça qui fait sa particularité.
Non, là, tu te gourres complètement. Parce que justement, on va dire que c'est un des films qui représente le plus la pensée de Disney.
Allez, donc, je te laisse développer. Je te laisse développer, Sabrina.
Ah bon, moi ça aurait été plutôt Mary Poppins.
Non.
Non, c'est clair.
C'est clair.
Donc
c'est
le film, c'est une considération, plein de considérations sur. Bon, déjà je vais continuer à parler de la forme avant d'aller dans le fond. Évidemment, le film, c'est la perfection absolue. J'en parlais pour le rythme, savant dosage entre les moments forts, les moments musicaux, les moments d'action, les moments justement contemplatifs.
Les moments tragiques aussi.
Voilà. La qualité des morceaux musicaux, puisque vraiment des trucs qui tabassent de partout. Le morceau de jazz et du swing des singes avec le roi Louis, qu'ils ont fait appel à Louis Prima, le musicien. Il y a la chanson en chœur à la fin des vautours qui ont le look des Beatles, mais bizarrement Walt Disney pensait que le style musical des Beatles aurait beaucoup de mal à passer avec le temps dans un Disney, donc finalement ils font pas du tout une chanson de Beatles, même s'ils en ont le look avec les cheveux qui descendent jusqu'au bec. Au point de vue des personnages, de la narration, c'est vraiment c'est insurpassable aussi. C'est un film sur la solitude, sur les rapports de confiance entre les êtres, puisque Mowgli est successivement trahi par quasiment tous les personnages du film, même si c'est pour son bien. On a des conceptions, une suite de conceptions de la vie différente, de l'insouciance de Balou jusqu'au sens des responsabilités de Bagheera, puisqu'on peut quand même dire que Balou a un côté beaucoup plus paternel et plus de grand frère, alors que Bagheera a vraiment le sens de côté plus maternel. C'est la panthère qui donne Mowgli au loup pour que.
Mais aussi soit beaucoup plus matérialiste.
Plus matérialiste, oui, puisqu'il il prend en compte beaucoup plus la sécurité de l'enfant, etc. Là, on a la discipline militaire des éléphants, on a plein de
la perfidie du
serpent, et l'instinct de prédateur de Shere Khan, du tigre. On a, ben, justement, on parlait du prédateur, c'est plein de considérations sur la notion de proie et de prédateur, puisque suivant les animaux, il y en a un qui va devenir la proie alors qu'il était le prédateur au début du film. Le rapport entre le serpent, le tigre, les éléphants, aussi le fait que Mowgli, au fil du film, apprend aussi à se servir de ses atouts à lui, puisque au fil du film, il comprend qu'il veut successivement suivre Bagheera, il n'a pas les griffes pour se hisser en haut de l'arbre, il veut rivaliser avec Balou et peut devenir son pote et devenir un ours à son tour, mais il n'a pas la force suite à justement un match de boxe mémorable avec justement la dimension musicale derrière, voilà. Voilà, on a l'hypnose et la perfidie du serpent K.
Fais-moi
confiance en moi. la puissance des éléphants avec le petit éléphanto qui apprend à Mowgli à suivre le rythme et la discipline de son père, etc. Alors plein de moments évidemment magiques de comédie avec l'éléphant qui agite son bout de bambou pour dire la discipline, mon temps c'était la discipline. C'est vraiment
un éléphant n'oublie jamais.
Voilà, vous venez d'oublier votre petit fils. Oh, halt. Donc c'est voilà un moment de magie pure. Et Mowgli, effectivement, va apprendre à jouer sur son atout, mais le feu des hommes, qui sera aussi la pièce centrale, le fil rouge du film, puisque c'est pour échapper à la haine de, du tigre qu'il a pour les hommes et le feu, qu'il va falloir que Mowgli aille rejoindre le village des hommes. Au niveau des bonus DVD et interactivité, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, le fameux documentaire de 46 minutes sur la fabrication du film, où, encore une fois, on n'échappe pas aux sempiternels historiens du cinéma qui disent « Eh oui, celui-là, là, c'était un bon, c'était vraiment le top du top. Ah là là, que d'émotion.
Oui, au moins, il y a enfin un documentaire sur un film de Disney qui est.
Oui, c'est vrai.
Ça, ça n'a jamais été fait, c'est une révolution.
Tout à fait.
Tout,
oui.
tout comme quand il y a 10 ans, ils ont remixé les morceaux de Disney, c'est le morceau qui arrive là,
oui.
de Louis. Ça aussi, c'est Disney, c'était non, on ne parle pas de ce qui se fait derrière et tout ça. On l'a fait pour la promo avant le film, on n'en parle plus après.
C'est vrai. Alors là, à part justement ce tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, de l'historien, il y a quand même des témoignages de gars qui avaient travaillé sur le film. Les animateurs, il y a l'enfant qui doublait Mowgli, qui était le propre fils du réalisateur. Un passage, on apprend plein de trucs. Évidemment, l'anecdote du scénariste qui a été viré par Walt Disney et dont on a retrouvé tous les traces écrites et le traitement, le storyboard dans sa maison une fois qu'il est mort et qui a été qui est montré justement dans les bonus visuels du DVD. On a un parallèle extrêmement intéressant entre l'œuvre de Kipling, puisque c'est une succession de courtes histoires, avec un voyage au début, le Mowgli est plus grand, ensuite on revient quand il était beaucoup plus bambin, etc., avec des sauts dans le temps, etc. Le travail monstrueux qu'a effectué Bill Pitt, qui a été viré ensuite sur essayer de rendre cohérente une histoire en un film d'une heure et demie, plus la relecture de Walt Disney derrière, qui disait vous me virez tous les trucs moches qu'il a pondu, tout ce qui est sauvage et tout, vous en faites une comédie musicale qui tue sa mère, puisque Walt Disney voulait toucher le cœur des gens. On a aussi des témoignages de réalisateurs contemporains comme Brad Bird, réalisateur des derniers Pixar, et d'animateurs qui ont travaillé sur des Disney plus récents, qui sont inspirés du livre de la jungle. Par exemple, on découvre que l'animateur de Iago, le perroquet de Jafar, il s'est vachement inspiré des vautours à la fin du film, avec les plumes qui à chaque fois qu'ils volent quand ils parlent. Shere Khan, qui a inspiré les lions du Roi Lion. Mowgli, dont l'animation, la démarche a inspiré Aladdin et Jasmine quand ils déambulent dans la cité du vizir, non,
dans la ville, carrément.
Oui, dans la ville, enfin le palais, voilà. Bon, là, c'est super intéressant. Il y a un commentaire audio des techniciens, de certains animateurs également. Il y a aussi une seconde partie plus axée pour les enfants, avec les chansons à se rechanter, apprendre l'anglais avec le livre de la jungle, etc. C'est vraiment du très bon.
Ça, il y avait déjà ce genre de bonus. Oui. Je crois que dans Lilo and Stitch, il y avait justement un cours d'anglais ça sur le DVD.
Alors non seulement vous pouvez revoir le film en version restaurée, c'est-à-dire les couleurs qui pètent, etc. Et en plus vous en apprenez beaucoup sur l'élaboration du film avec les documentaires, les bonus, et on voit aussi des personnages qui sont passés à la trappe, qui faisaient partie du storyboard, qui a fait la jonction entre le livre de Kipling et le film. Donc voilà, c'est une valeur sûre. Le livre de la jungle en double DVD collector, c'est édité chez Disney, film de Wolfgang Reitherman, et qui est sorti en 67. Alors je me suis imprimé la chronologie des films Disney. Il est sorti entre les Aristochats et juste avant les Aristochats et juste après Merlin l'Enchanteur et Mary Poppins. Voilà, c'était dans les années milieu des années 60.
Non, c'est pour ça que je disais que justement c'est il fait partie des Walt Disney où la pensée de Walt est vraiment ancrée, quoi.
Et parce qu'il était
bien avant ce que disait Mary Poppins.
Voilà,
bien avant Mary Poppins. C'était ses dernières heures qu'il vivait. Puisqu'il était rongé par la maladie. Et il a fait appel à Jasmine, il a fait appel à des scénaristes, des dessinateurs, des animateurs compétents, justement les jumeaux.
C'est Oli comment ils s'appellent.
Les jumeaux, parce qu'ils se ressemblent tellement, quoi.
Ouais, c'est les deux animateurs qui ont bossé sur les animations de Bagheera et Baloo, et justement l'amitié entre les deux animaux,
c'est l'amitié des deux
animateurs. Ouais.
Donc justement, tout est dans ce film.
D'accord. Bien. Ben, en tout cas, on va pas se passer. J'avais dit que ça a été une révolution. Disney a toujours refusé que les morceaux qui aient été utilisés dans ses films soient repris. Et il y a 10 ans, ils ont tenté une expérience avec un label techno japonais qui s'appelle le D100 Café, parce que c'est justement au départ c'est une boîte de nuit. Et ils ont tenté l'expérience de faire remixer plusieurs morceaux. Donc il y a la parade de Disney avec un saxophoniste d'ailleurs très connu. Il y a le bruit de la pluie dans Alice au pays des merveilles et plein d'autres petites merveilles. Et là, il s'agit donc du fameux morceau de Louis Prima avec le roi des singes, donc qui est remixé par Yukihiro Fukutomi et qu'on a déjà passé plus d'une fois dans cette émission.
I'm gonna be glad that I'm done.
Thomas, on avait un deal. Tu me donnais le secret du feu.
Ah oui, alors j'écoute. Voilà, donc
Louis, Louis Prima, I wanna be like you. C'est ce qu'il raconte en fait. Hein. C'est, il essaie, il dit à Moogie, mais donne-moi le secret du feu.
Oui,
mais
je
le
connais pas. Être un homme, je le connais pas. Comme vous.
Ouais. Voilà, et c'est et quand même, c'est assez étonnant quand même ce remix en two step du morceau. Il marche super bien. Et j'ai réécouté l'original du coup. C'est
les deux se valent.
Les deux se valent, c'est ça qui est vraiment étonnant. Et justement, je suis tombé sur l'une des rares prises qui ont été faites, malheureusement muettes, de Louis Prima et son orchestre en train de jouer. Il s'éclate dans le studio, c'est-à-dire il rejoue la scène alors que les images n'ont pas encore été dessinées, quoi. Pardon.
J'ai là une question. Il est formidable.
Le passage en animation aussi, ouais. Mais ouais.
Les singes animation, c'est.
C'est grandiose, c'est vraiment un jeu musical, quoi. C'est très très fort
tout
ce côté-là.
Tout l'orchestre jazz derrière, Louis Prima qui joue directement en live.
Oui, oui, en une seule prise
une
d'ailleurs.
S'il y a eu plusieurs prises, mais.
Enfin, il y en a eu plusieurs, ils sont essayés, etc. Mais après, ils sont partis dans leur délire, ils sont allés d'un seul coup.
Plus les autres jazzmen.
C'est même pas en multipiste, c'est fait en un seul micro d'ailleurs sur une scène.
Et sachant que pour continuer à parler de cette chanson, en fait, il y a une reprise en pop rock par un groupe de Jones qui est dans le DVD.
Oui, parce que c'était tourné pour le deuxième.
Ah,
pour le deuxième, et ils l'ont pas inclus parce qu'ils l'ont trouvé vraiment trop pourri. Voilà la vraie histoire. Donc c'était pour remplir DVD du 1 qu'ils l'ont mis. Bravo, c'est malin. Thomas, peux-tu faire s'il te plaît le résumé pour ceux qui ont pris le supplément week-end numéro 141 en cours de route?
Mais tout à fait, déjà le 141, que diable. On a eu cette fois le bon morceau d'intro programmé, mais le lecteur CD, il a mal marché le lecteur CD. On a eu en invité Dil Sessab aujourd'hui pour nous parler d'un artbook d'illustrateur qui donne envie de se suicider. De la BD avec des prêteurs sur gage, du 7ème choc, de la BD qui a fait un beat sur le plateau, du remix de Disney en two-step à l'occasion de sortie en DVD d'un film magique. Du 40ème anniversaire, effectivement, du livre de la jungle. Et puis voilà, et on n'a pas eu du sport aujourd'hui.
Et il est 13h10 et donc la suite des programmes sur Radio FMR. Et eh bien c'est tout simplement à 17h Big Bang, non j'ai dit une bêtise, 17h c'est ça, c'est de la bonne viande, donc c'est une émission musicale avec n'importe quoi à découvrir au hasard dans la discothèque, et là dessus ils brodent, et attention ils sont pas mauvais. 18h donc Big Bang, donc c'est Rock This Number Happy Rose, c'est de l'électro sympatoche avec un petit martini frappé, c'est nickel, et vous pouvez boire avec consommation. 19h donc Happy Hour, 21h c'est la Cetero Experience avec Fabrice, c'est de l'électro complètement branque. 21h30 c'est Two Step avec New of Love, et à 23h du live avec le potager. Nous on se retrouve la semaine prochaine donc avec Ferry qui est en invité pour donc De Gaulle à la plage, mais aussi on parlera des brigades du bureau Tarné d'investigation et plein d'autres délires qu'il a pondus. Il a fait aussi d'ailleurs retour à la Terre, dessiné par Larsenet. Il sera en direct la semaine prochaine puisqu'il sera en dédicace à partir de 15h samedi prochain à la librairie Gibert.
Ah Gibert, oui.
Gibert, excusez-moi, voilà. J'aurais dû le noter, ça m'éviterait de faire les trous. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao, bye bye.
Ciao.
Ciao.